Le docteur Vildocher, qui est aussi un éminent psychiatre à Paris, à la Salpêtrière, a dit ce qui suit. La dépression commence lorsqu'à la tristesse, au manque d'espoir, au pessimisme, s'ajoute un manque de l'activité, du tonus, des difficultés de concentration mentale, ainsi qu'une fatigue inexplicable. Et cette dépression, cette tristesse lancinante, profonde, accablante, qui dure, de laquelle on ne peut pas se dégager, qui vraiment est là comme la mort nous tuant à petit feu, de cette tristesse profonde, de cette dépression, il y a bien sûr des incidences organiques, des incidences somatiques. C'est une maladie qui éprouve tout l'organisme. Vous savez que le psychique et le physique sont très liés chez l'individu. Ils s'interpénètrent. Le docteur Henri Lowe, que je citais tout à l'heure et dont j'ai une cassette ici, que j'écoutais encore hier en venant, a dit ce qui suit. Les douleurs, d'une façon générale, chez l'individu, sont l'expression de la dépression qu'il habite. La plupart du temps, les douleurs sont l'expression de la dépression. Douleur faciale. Douleur cérébrale, maux de tête. Douleur lombaire. Douleur stomacal, ce qu'il est convenu d'appeler en psychiatrie, en médecine, l'hypochondrie. Hein, l'hypochondre est la partie ici située à l'aine, ici qui tout à coup devient douloureuse lorsqu'on est dépressif. Avec des troubles du sommeil, le dépressif est souvent un lève-tôt. Un lève très tôt même, qui commence très tôt de ruminer ses problèmes. Et puis, le dépressif ne cesse de se plaindre. Il se plaint bien sûr de son mal-être, de sa tristesse intérieure, mais il se plaint aussi de douleurs physiques. Il a mal au dos, il a mal aux reins, il a mal aux jambes. Et le médecin, lorsqu'il l'ausculte, le tâte, ne trouve pas de mal physique. Il en déduit que ces maux-là sont des maux à l'origine psychiques, psychosomatiques. Et puis, il y a cette fatigue inexplicable. On va au lit le soir et on passe peut-être, je ne sais pas, quelques heures à dormir. On peut se coucher tôt même, se lever tôt. Et puis, au lever, on est plus fatigué, beaucoup plus fatigué qu'à l'heure où on s'était glissé dans le lit la veille. Alors, vous en avez qui, lorsqu'ils se lèvent le matin, se demandent comment ils vont pouvoir tourner au cours de la journée. Ça, c'est un des signes. La fatigue qui n'est plus donc une fatigue physique, mais qui est une fatigue mentale. En d'autres termes, le corps était au repos, mais l'esprit, lui, ne s'était pas reposé au cours de la nuit. D'où précisément ce symptôme de fatigue physique qui se répercute, bien sûr, qui a une incidence sur le corps. Le docteur Pélissier de l'hôpital Necker à Paris donne 3 signes à la dépression. 3 signes essentiellement. La perte du goût de vivre, avec le désir de suicide, le ralentissement de l'activité physique, et puis une tristesse accablante. Le vocable dépression, nous le devons à un certain Jean-Pierre Farlet en 1853. C'est la première fois que ce terme a été employé. Mais pas de façon courante par la suite. Mais Jean-Pierre Farley a dit ce qui suit de la dépression. Il s'agit d'une tristesse, encore, toujours la tristesse. Hein. D'où précisément ce texte que j'ai tenu que nous disions tout à l'heure ensemble, Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Il s'agit d'une tristesse qu'escortent des symptômes comme l'anxiété, la perte du sommeil et des troubles corporels. Le docteur Henri Lowe, que je citais tout à l'heure, a encore précisé ce qui suit. L'asthénie, c'est-à-dire la grande fatigue psychique en même temps que corporelle, atteint toutes les capacités motrices et intellectuelles et engendre plutôt un ralentissement somatique, c'est-à-dire corporel, et se traduit par des perturbations du sommeil, des troubles cardiovasculaires, digestifs et sexuels. Alors peut-être que certains, ce matin, ont reconnu ce genre de symptômes chez eux. Qu'il n'en soit point, j'allais dire, visé, ni même effrayé, parce que si nos psychiatres reconnaissent qu'il s'agit d'une maladie, c'est une maladie, la Bible parle du salut. Oh, je voudrais le dire dès à présent. Et savez-vous que le terme salut, en grec, la langue du Nouveau Testament, c'est tout simplement le terme sotéria, qui signifie, en grec, santé. Parce que le salut, c'est la santé. Et pas simplement la santé morale, la santé de l'âme, mais c'est la santé de l'être tout entier. Et il faut que vous sachiez que le Seigneur est venu pour nous restaurer sur tous les plans. Quand on parle du salut des âmes, on ne touche qu'à un aspect du salut en général. Un aspect fondamental, certes, mais nous ne touchons pas, toute l'étendue du terme salut. En grec, salut, c'est santé. Et quand on prêche le salut, on prêche la santé. On prêche d'abord la santé de l'âme, parce que c'est le plus important, parce que l'homme court le risque d'une perdition éternelle loin de la face de Dieu, mais on prêche aussi la santé du corps. La sotéria, et ne serait-ce qu'à considérer le nombre de malades que le Seigneur a guéris du temps de son ministère terrestre. C'est impressionnant. Il a guéri énormément de monde. Et ça faisait partie de son œuvre de salut, de son œuvre de rédemption. Alors, gardons cela à l'esprit. Salut égale santé. Et salut égale santé sur tous les plans. Il y a donc un formidable espoir. Et nous pouvons déjà dire que le véritable psychiatre, le véritable psychologue qui ne se trompe lui jamais, c'est véritablement le Seigneur, hein, qui veut notre santé sur tous les plans. Maintenant, j'aimerais voir rapidement avec vous une historique de ce mal. Parce qu'on le considère comme étant un mal de la civilisation, mais la dépression, bien sûr, a existé depuis longtemps. La dépression ne date pas d'hier. 5 siècles avant Jésus-Christ, le père de la médecine, un certain Hippocrate, avait appelé humeur, les liquides qui, selon lui, circulaient dans le corps humain. On ne connaissait pas, bien sûr, l'anatomie de l'homme comme on la connaît aujourd'hui. Mais cet Hippocrate avait donc déjà appelé humeur ces liquides qui circulaient et qui circulent encore dans le corps humain. Et il a constaté une chose intéressante, la suivante, que l'une de ces humeurs, la bile, sécrétée par le foie et qui se trouve dans le foie, rendait les selles curieusement noires dans le cas de grande tristesse. Il avait fait cette constatation en tant que médecin. D'où précisément le terme mélancolie qui nous vient de lui. Parce que le terme mélancolie qui est, je dirais, le signe fondamental de la dépression, avec la tristesse, vient du grec mélas, qui signifie noir. Vous avez de la bonne mélasse ici en Suisse, hein, que mes enfants aiment, qui ressemble au miel. Mélasse, ça veut dire noir en grec, et colé, qui signifie bile. Mélancolie, celui qui fait de la bile noire. En tout cas, en réalité, celui qui se fait de la bile. Et là encore, nous pouvons dire que la tristesse, la dépression a une incidence somatique, c'est-à-dire organique, physique. Elle influe sur la bile. Être mélancolique, c'est donc faire de la bile noire. Pendant longtemps, la dépression, dans l'Antiquité, a été appelée humeur noire. Puis, jusqu'au XIXe siècle, on l'a dénommée mélancolie. Et puis, en 1853, on a commencé de l'appeler dépression, grâce à Jean-Pierre Falleret, dont je viens de citer un texte. Il s'agit d'une tristesse qui escorte des symptômes comme l'anxiété, la perte du sommeil et des troubles corporels. Sigmund Freud, mort en 1939, et qui est l'un des pères de la psychanalyse, l'a qualifié, c'est très important cela, il l'a qualifié de blessure narcissique. De blessure narcissique, ceci à cause d'une autodépréciation. Une autodépréciation. L'individu s'autodéprécie. Il se dévalue lui-même. Et ceci crée chez lui une sorte de blessure intérieure qu'il s'inflige lui-même. Il s'est fixé des objectifs qu'il n'arrive pas à atteindre, des dimensions peut-être intellectuelles ou physiques qu'il n'arrive pas à atteindre. Et parce que il est en difficulté dans sa propre vie, il en arrive à s'auto-déprécier. Et cette auto-dépréciation, je crois qu'il a vu juste, eh bien, relève littéralement de l'égoïsme. Mais lui, il n'interprète pas les choses de cette manière-là. Si vous lisez le livre que j'ai littéralement dévoré, qui est très bon, que je vous recommande, « Notre santé mentale, point de vue psychiatre sur la dépression », certains l'ont lu ici, notre santé mentale. Vous commencez. Vous verrez que ce médecin chrétien traite beaucoup de l'égoïsme à l'origine de la dépression. Non seulement chez le non-chrétien, mais aussi chez le chrétien. Et l'égoïsme est précisément ce travers chez l'homme qui lui donne de vouloir tout accaparer à lui, qui lui donne aussi de avec l'orgueil de s'élever lui-même, de s'apprécier lui-même et de tout orienter vers lui-même. Quand l'homme n'y arrive pas, il a donc une réaction assez bizarre, puisque son moi n'a pas réussi à dépasser les dimensions, les limites, en quelque sorte, qu'il a réalisées chez lui. Eh bien, il en vient à se blesser lui-même, à se frapper lui-même, d'où blessure narcissique, d'où blessure intérieure, d'où précisément hier ce que je disais, si l'angoisse est une maladie de la conscience, la dépression, elle, est une blessure de la conscience. Beaucoup plus importante et beaucoup plus sérieuse que l'angoisse elle-même qui déjà est quand même sérieuse. De ce fait, il y a énormément chez le dépressif d'agressivité rentrée, de colère rentrée. Et toutes ces colères rentrées, ces agressivités rentrées, finissent par blesser celui qui les éprouve. D'où blessure narcissique, d'où blessure de la conscience. Dont il faut alors prendre conscience et qu'il faut alors guérir. Alors, posons la question, est-ce qu'un dépressif peut guérir? Selon nos savants, et j'ai eu tout à l'heure un chiffre d'une infirmière qui en ce moment travaille à Belley, tout près d'ici, et qui a pris son petit déjeuner là, en face de moi. Les psychiatres à Belley, d'une façon générale, et en particulier le médecin-chef, dit qu'ils peuvent reprendre et restaurer 20% des malades. Quant aux autres, ils le sont à vie. Et pour le moment, au niveau des connaissances que nous avons du mal, eh bien, tout en essayant de faire au mieux, 80% restent malades de dépression. Il y a peu de temps, à Montréal, au terme d'une conférence sur l'angoisse, une journaliste, mademoiselle Frappier, est venue vers moi pour me dire « J'aimerais vous interroger, vous interviewer une demi-heure pour mon journal. Est-ce que cela serait possible ?» Mais très volontiers, mademoiselle. Et avant d'aller comme cela à l'écart avec elle, pour un article de journaux, de son journal en tout cas, elle m'a dit « Vous avez touché un sujet terriblement important parce que j'ai couramment contact avec des psychiatres ici à Montréal et la plupart du temps, voici ce qu'ils me disent. Face à certains cas de dépression, c'est des psychiatres qui ont dit cela à cette journaliste, face à certains cas de dépression, si notre cabinet est situé au troisième étage, nous avons comme une envie d'ouvrir la fenêtre et de balancer le malade, tellement nous sommes dépassés par les événements. » Voici ce que m'a dit cette journaliste. Or, quelle joie de savoir que le Seigneur guérit la dépression. Que le Seigneur a les moyens de nous tirer d'affaire, et ce, de façon absolument merveilleuse. Je le disais tout à l'heure, la dépression, une maladie de la conscience. Trois choses. Tristesse accablante. Sentiment de culpabilité. Douleur physique. Somatique. Corporelle. De quelque nature que soit la dépression, le Seigneur a véritablement pouvoir sur elle. Il a puissance sur elle. Et je voudrais simplement, par exemple, prendre le cas d'une dépression, celle de David. Au psaume 32e, David rapporte comment il a passé une dépression. Et il révèle les symptômes de sa dépression. C'est assez remarquable, en particulier au verset 4, même au verset 3. Hein, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Et nous savons pourquoi il était entré en dépression, par adultère et par crime, hein, faisant assassiner littéralement le mari de Bathsheba, l'un de ses généraux, Uri, qui était au combat, hein, qu'il avait fait placer au meilleur endroit pour le faire assassiner. Alors, David avait oublié qu'il avait une conscience. Alors, il révèle ce que furent ses états intérieurs, ses humeurs, sa conscience, l'état de sa conscience. Toute la journée, je gémissais, plainte du dépressif, hein, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Ça, c'est véritablement les symptômes du dépressif, d'une tristesse pathologique, littéralement, qu'il avait envahi. Et puis, nous savons comment il en est sorti, hein, en confessant son péché au Seigneur, en mettant ça en règle, sa vie de croyant. Puis ensuite, il parle de joie. Il est passé de la tristesse à la joie. Alors, il dit au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Hein, surtout, ne cachons rien au Seigneur. » Si nous sommes dépressifs, blessés dans notre conscience, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, et tu m'entoures de chants de délivrance. Il est passé du gémissement au chant, hein, au chant de délivrance, au chant d'allégresse, au chant de joie. Et puis il y a eu un autre dépressif aussi, c'était Asaph, le psalmiste, au psaume 73e, hein, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, qui se trouvait dans une situation un peu comme celle de Job, à vue humaine, sans raison. Et voici ce qu'il dit. Lui donc connaissait un abattement intérieur profond, tandis qu'il voyait autour de lui des méchants heureux, apparemment heureux. Et il leur avait porté envie. Non, peut-être pas le temps de lire tout le psaume, ou bien, je pense qu'il est bon que nous le lisions quand même. Parce que ces études intéressent plutôt davantage, je dirais, les chrétiens qui peuvent connaître des temps, des passages à vide. Voici ce que dit Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Et que de fois cela nous arrive, hein. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint, encore qu'il faille faire attention là, aujourd'hui, à l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent. Ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se détourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. » Franchement, on ne veut pas le critiquer, Asaph, hein ? Mais est-ce qu'on n'a jamais eu, nous, ce genre de sentiment dans notre cœur ? En tant que chrétien, on se demande « Mais qu'est-ce que Dieu fait avec nous ?» Tandis que ceux qui ne le connaissent pas, là, nous paraissent heureux, tranquilles, calmes. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est donc en vain. Comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Franchement, on ne veut pas le critiquer, Asaph, hein ? Mais est-ce qu'on n'a jamais eu, nous, ce genre de sentiment dans notre cœur ? En tant que chrétien, on se demande, mais qu'est-ce que Dieu fait avec nous, tandis que ceux qui ne le connaissent pas, là, nous paraissent heureux, tranquilles, calmes. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est donc en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Oh, il pouvait se poser des questions, hein, à notre Asaph. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Ça, c'est le signe d'une dépression, hein, d'un état dépressif. Parce que le dépressif, c'est un lève-tôt, et il ressasse ses problèmes. Tous les matins, mon châtiment est là. Et si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Je peux pas me mêler aux infidèles, hein. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort des méchants. Alors, la difficulté a été grande aux yeux d'Asaph, il en a été presque déprimé. Comment moi qui aime le Seigneur, comment moi qui lui ai donné toute ma vie, comment moi qui le chante, comment moi qui ai purifié mon cœur, comment moi qui ai lavé mes mains dans l'innocence, et c'est ainsi que nous, chrétiens, nous pourrions parler, comment est-ce que tous les matins mon châtiment est là, comment est-ce que tous les jours, comment comprendre que tous les jours je suis frappé ? Alors que eux autour de moi semblent heureux, mais est-ce moi qui me suis trompé ? Ça ne vous est jamais arrivé, cela ? Ou est-ce que ce sont eux qui sont dans le bon chemin ? Ceci a été difficile à comprendre pour lui, un état dépressif jusqu'au moment où, il vit les choses non plus d'en bas, très important à retenir cela, mais d'où ? D'en haut. Et quand on regarde les choses à partir d'en haut, du sanctuaire de Dieu, on les voit alors différemment. Et qu'est-ce qui se passe chez nous ? Eh bien, verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, c'est-à-dire, je peux continuer à être frappé tous les jours. Mon châtiment peut être encore là tous les matins. Dieu sera le rocher de mon âme et mon partage. » Et puis il dit ensuite, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Voilà comment il a résolu le problème, en s'approchant de Dieu, en entrant dans l'intimité de Dieu. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes ses œuvres. Et c'est très souvent le cas chez le chrétien qui n'arrive à saisir certaines choses que lorsqu'il entre dans la Shekhinah de Dieu, c'est-à-dire dans la présence intime du Seigneur, dans une intimité avec le Seigneur qui ne lui enlève pas, je dirais, comme Asaph, ses souffrances, mon cœur et ma chair peuvent continuer de se consumer, mais Dieu sera toujours mon partage, hein, et son âme en a été enrichie. Et il a compris, là, à partir des sanctuaires de Dieu, quelle était en réalité la manière dont Dieu voit les choses. Ce qui est important pour nous, c'est la manière dont Dieu voit les choses. Et ensuite, il parle des méchants autour de lui, des méchants qui s'enorgueillissaient de leur prospérité matérielle, de leur joie apparente, tandis que lui connaissait des moments de grand trouble. À partir des sanctuaires de Dieu, il a compris énormément de choses. Moi, je dirais pour Asaph, le sanctuaire de Dieu était difficile d'accès. Pour nous, le sanctuaire de Dieu, le voile a été déchiré. Le sanctuaire de Dieu est tout à fait accessible. Et je dirais que nous devrions même nous y situer constamment, afin que, à partir de là, nous puissions réellement voir les choses comme Dieu les voit, même si des mots nous atteignent, comme Asaph. Nous puissions les interpréter, ces mots-là, à la façon de Dieu, et non pas, j'allais dire, de manière humaine, qui risque de nous porter au découragement, tout chrétien que nous soyons. Et c'est à partir de là, vraiment, qu'Asaph a été littéralement métamorphosé, transformé dans sa façon de voir et de considérer, d'approcher, d'apprécier les choses. Et nous avons, nous aussi, besoin d'avoir cette façon divine d'approcher, de considérer les choses, qu'elles nous touchent de près, qu'elles nous concernent de près, ou qu'elles concernent ceux qui nous entourent, afin que nous ne risquions pas la dépression. Asaph l'a risqué, la dépression, in extremis, hein, accablé. Mon châtiment revient tous les matins, il est là. Rumination de problèmes, rumination mentale, autant d'expressions de son état de déprime. Il se fait très souvent que notre humeur, elle aussi, se trouve au plancher. Hein? Non? Jamais? Dites-moi votre secret. Dites-moi comment ça ne vous arrive pas. Eh bien, la meilleure façon d'éviter cela, quand l'humeur a tendance à descendre, il faut que notre foi monte. Vous comprenez le système du balancier, là? Hein? Qu'est-ce que c'est que la dépression? C'est une chute de l'humeur. Hein, nous l'avons dit, c'est un dérèglement de l'humeur. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Nous allons le voir. Dans ce cas-là, il y a dérèglement au niveau de la sécrétion de certaines glandes qui régulent notre humeur. Nous le verrons ce soir, il y a les surrénales qui sécrètent le cortisol, dont l'abondance, le cortisol étant appelé l'hormone du stress, l'abondance peut créer un état dépressif. Il y a aussi les autres hormones que sécrète le cerveau, dont disons, une carence peut créer aussi un état dépressif. Et tout ceci joue sur notre humeur. La dérègle. Et la plupart du temps, l'humeur, c'est quoi ? La dépression, c'est quoi ? C'est une chute verticale de notre humeur qui atteint des planchers épouvantables. Tout précisément le goût de d'en finir avec l'existence. Mais quand on en est là, Asaph, lui, était en train de chuter dans son humeur. Alors, qu'est-ce qu'il a sorti de cet état-là ? Ça a été précisément par la foi d'entrer dans les sanctuaires de Dieu. Et une fois entré dans les sanctuaires de Dieu, son humeur a été rétablie. Son âme en a reçu du bien, il a été tiré d'affaire. Alors souvenons-nous, quand le ciel s'assombrit, comme nous l'avons chanté, j'ai trouvé le cantique tout à fait approprié tout à l'heure, quand l'orage est là, quand notre humeur décline, quand nous sentons que nous perdons pied, tout de suite, les sanctuaires de Dieu, la présence intime du Seigneur, sa communion intime, et nous nous retrouvons alors bien. Nous retrouvons une restauration totale. Nous comprenons les chemins par lesquels le Seigneur a voulu que nous passions, nous expliquons même, nous interprétons certaines circonstances, et tout cela concourt donc à nous faire du bien, puisque toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, à partir de ces exemples-là, nous pouvons déjà, je dirais, comprendre la dépression, et puis nous en guérir, grâce au Seigneur, bien sûr. Le chrétien a besoin de repentance. Le chrétien a besoin de vider son cœur. Parfois, on en prend trop. On prend déjà ce qui est à nous, on prend ce qui est autour de nous. C'est précisément ce qui écrase nos psychiatres, nos psychologues. Vous savez que les psychologues, et ça, ceci a été une recommandation du docteur Jung, là encore tout à votre honneur, qui a été l'un des inventeurs de la psychanalyse, le docteur Jung conseillait aux psychologues de se psychanalyser les uns les autres. Parce que le psychologue, à force d'encaisser, d'entendre, finissait par être tellement chargé qu'il risquait lui aussi la dépression. Lui aussi la chute de son humeur. Alors, il conseillait donc au psychologue de se vider sur un autre psychologue, lequel avait lui aussi besoin de se vider sur un autre, cercle vicieux bien sûr, hein. Mais ça faisait déjà du bien. Sigmund Freud a dit des choses qui sont intéressantes. Il a dit que pour se dégager de fardeaux, de charges intérieures d'agressivité, il fallait faire passer de l'inconscient dans le champ du conscient tout ce qui précisément pèse, égratigne et blesse. Et une fois prise de conscience de ces fardeaux-là, c'est toujours Sigmund Freud qui l'a dit, hein, il fallait confesser cela devant un tiers. La confession. Sigmund Freud en a parlé. Ce qu'il n'a pas parlé du tout, c'est de la confession à Dieu, parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Mais il a parlé du fait de confesser, de faire, en quelque sorte, sortir ce qui pèse. Mais dites-moi, quand on a, nous, hein, le Seigneur qui est notre berger personnel, quand on pense qu'il est notre pasteur personnel. Amis chrétiens, vous avez votre pasteur personnel, hein, auquel vous pouvez tout dire, tout confesser, vous décharger pour avoir un cœur constamment léger. Qu'est-ce que vous faites de cela? La difficulté a été grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires du Très-Haut. Puisse le Seigneur nous faire pénétrer pour nous y garder dans ces sanctuaires, afin que là, nous puissions décharger notre cœur, décharger notre âme, décharger notre conscience aussi, notre péché de chrétien, hein, nous en avons. Il faut le confesser, ça fait du bien, nous en soulager, et pour ensuite voir à partir des sanctuaires de Dieu, les pourquoi qui nous ont agacés, les comprendre, si Dieu veut bien nous les faire comprendre, parce que certaines choses cachées Lui reste, il ne nous dit pas tout, mais enfin d'être en paix et apaisé dans sa présence. Alors le Seigneur veut que nous ayons des vies paisibles, des vies en paix et des vies sereines et joyeuses. Alors, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est impossible, Alain Joachim. Eh bien, il faut arracher cette page dans la Bible. Déchirez-la. Mettez-la au panier. Et contentez-vous du reste. Mais non, réjouissez-vous toujours. Vous savez que le terme « toujours » en français est une contraction de l'expression « tous les jours ». Toujours, ça signifie « tous les jours ». Tous les jours, en quelques circonstances que ce soit, tous les jours. Du lundi matin au dimanche soir, réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand la santé est bonne, comme lorsqu'elle n'est pas bonne, en plein rhumatisme, réjouissez-vous. Dernièrement, je suis passé par un mauvais état de santé. Et je dois dire que dans ce mauvais état de santé, je commençais de ruminer. Hein? Très sérieusement. Pourquoi, Seigneur, annulation d'engagement, de prédication, etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible, Seigneur, c'est pas toi qui veux ça. Et le Seigneur, souvent, comme ce fut le cas pour Asaph et d'autres, n'a pas d'autre moyen, parce qu'on n'a pas assez de, j'allais dire, de sens aiguisé de notre oreille spirituelle pour savoir ce qu'il veut. Alors il nous envoie quelque temps au lit. Et là, comme je le disais, quand on est couché, on regarde en haut. Quand on est debout, on regarde en face. Et là, couché, alors, toutes sortes de choses sont venues à mon esprit. Mais je dois dire que j'ai frôlé la déprime. Et puis tout à coup, ces paroles du Seigneur, puis le Seigneur me donnait des paroles tout à fait appropriées. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais Seigneur, avec l'état de mon diabète et ma glycémie à 3,45, réjouissez-vous dans le Seigneur. Avec cette arthrite-là à l'épaule, certainement due à cette glycémie, hein, je pouvais plus rien prendre de ce bras, tous les jours, friction, etc. Mais Seigneur, me réjouir, mais oui, réjouis-toi, réjouis-toi. Et c'est une fois dans les sanctuaires de Dieu que l'on quitte facilement, qu'alors nous comprenons le sens des choses, le sens de nos mots, et qu'alors nous pouvons même dire au terme des épreuves que Dieu nous envoie. Mais heureusement qu'il y a eu ces épreuves, parce que dans ces épreuves-là, nous avons été meurtris, certes, mais combien nous avons grandi au plan spirituel en ayant désiré le Seigneur plus proche. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et c'est les épreuves que Dieu nous envoie, nous introduisent dans une plus grande intimité, dans une plus grande connaissance de notre Dieu, qui est alors extraordinaire. Et nous avons besoin, la plupart du temps, d'épreuves douloureuses pour apprendre à le connaître davantage. Puisse le Seigneur être béni dans des moments qui nous sont favorables, et béni aussi dans des circonstances qui nous sont pénibles, douloureuse et même malheureuse. Que de toute manière, le nom de l'Éternel soit béni, et c'est cette joie retrouvée dans le Seigneur, après un temps de tristesse, qui conduit à la repentance, un temps de tristesse qui conduit, j'allais dire, à une plus grande connaissance de notre Dieu, qu'alors la joie littéralement jaillit, et avec elle, la louange. Je ne pense pas qu'un chrétien puisse être atteint de cette tristesse qui conduit à la mort, c'est-à-dire de cette mélancolie qui conduit au suicide. S'il lui arrive d'en arriver là, c'est parce qu'il a certainement péché de façon très grave, avec le refus obstiné de réparer, de confesser, de se repentir. Alors, bien sûr qu'il peut en arriver là. Mais cette tristesse qui conduit à la mort n'est pas le lot du chrétien. C'est impossible, parce que l'apôtre a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Triste à cause d'un péché, oui. Confession du péché. Le péché réglé. La conscience restaurée, c'est la joie, c'est la louange, et c'est l'action de grâce, la reconnaissance et la poursuite de l'épanouissement chrétien. Un péché non confessé peut nous conduire à la mélancolie, à la grande tristesse, à la souffrance morale intérieure dépressive, et peut aussi conduire au suicide. Voilà pourquoi il peut se faire de temps à autre qu'on entende dire qu'un chrétien soit suicidé. C'est peut-être très grave. Et pour ce soir, je propose que nous nous intéressions aux causes de la dépression. Elles sont multiples. En même temps qu'aux remèdes à la dépression. Je voudrais encore ajouter un dernier mot. Peut-être y en a-t-il ici qui sont dépressifs, déprimés. Nous avons eu une personne hier soir qui l'était. Nous avons prié avec elle. Elle s'en est trouvée soulagée. Elle a prié elle-même. Peut-être y a-t-il d'autres personnes ici qui passent par des moments pénibles. Nous sommes là pour vous aider, Jacques Beauvert, moi-même, d'autres, Charles-André Robert, notre frère ici, Jean Chtely. Nous sommes tout à fait disposés à vous entendre et à prier pour vous. Et peut-être même à vous venir en aide par imposition des mains ou par onction d'huile. Nous allons préciser ces choses ce soir, mais n'attendez même pas ce soir pour cela. Nous sommes à votre disposition, en tout cas, pour vous aider. Le Seigneur guérit la chute de l'humeur et il met dans notre cœur la joie du salut, la joie du pardon des péchés, la joie de l'exaucement chrétien, la joie de donner, la joie du témoignage chrétien, la joie éternelle du salut. Parce que le signe distinctif du chrétien, eh bien, c'est la joie en même temps que l'enthousiasme. Puisse le Seigneur donc nous remplir de joie pour la gloire de son nom et pour notre épanouissement chrétien. Ce que le Seigneur veut, c'est une joie parfaite pour nous. Vous avez un texte ? Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses, a dit Jésus, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Joie parfaite, hein ? Gloire à son nom. Amen.